France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Les contes philosophiques de Voltaire nous occupent en cette semaine de Noël. Aujourd'hui, Micromégas, misère et grandeurs humaines. Voltaire a écrit ce conte, Micromégas, en plusieurs fois. En 1739, âgé de 45 ans, il entretient une longue correspondance avec le prince Frédéric, qui un an plus tard montera sur le trône pour devenir Frédéric II, roi de Prusse. Et Voltaire envoie, en 1739, à Frédéric un conte intitulé « Le voyage du baron Gangan ». C'est une préfiguration de Micromégas, nous disent les spécialistes. Voltaire attend cependant 1752 pour publier Micromégas dans la version que nous connaissons. 1752, c'est un moment où précisément ses relations avec Frédéric II deviennent difficiles et Voltaire interrompra bientôt son séjour auprès de lui en Prusse. Le pouvoir aurait-il rendu cet homme autoritaire et plus petit que le jeune prince instruit qu'il avait été? Et puis en 1749, donc 3 ans plus tôt, Voltaire a perdu sa chère amie, Émilie du Châtelet, brillante physicienne. C'est elle qui a initié Voltaire aux thèses de Newton, ainsi que philosophe très au fait des querelles françaises autour de Newton. Rappelons qu'au siècle précédent, Descartes avait, contre Newton, affirmé l'existence entre les planètes d'une matière subtile, tourbillonnante et source de leur mouvement. Et plus tard, le cartésien Cassini a affirmé que la forme de la Terre n'était pas, comme le disait Newton, celle d'un ellipsoïde ou sphéroïde de révolution, aplati au pôle, mais celle d'une sphère bombée au niveau des pôles. Le physicien Maupertuis, qui accompagne en 1736-37 une expédition en Laponie, va trancher l'affaire. C'est Newton qui avait raison. Mais tout cela faisait terriblement jaser. Et dans ces querelles françaises, ne s'exprimaient pas seulement des savants. Que d'orgueil, encombrant la vie intellectuelle, scientifique, politique. Voltaire a tout cela en tête dans Micromégas. Et pour nous parler ce matin de cette histoire d'un géant venu d'une autre planète et observant les tout petits humains qu'il trouve certes intelligents, mais fort imbus d'eux-mêmes, voici deux spécialistes de la littérature du XVIIIe siècle, toutes deux maîtresses de conférences à l'université Paul Valéry de Montpellier. Bonjour Linda Gilles.
Bonjour.
Et bonjour Maria Susanna Seguin.
Bonjour Géraldine.
Je renvoie vers notre site où vos travaux à l'une et à l'autre sont détaillés. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Voici, lu par notre réalisateur Nicolas Berger, un extrait du chapitre 1 de ce conte de Voltaire, Micromégas, où l'on apprend que le géant, par sa curiosité scientifique, avait mis en colère l'autorité religieuse de sa planète.
Dans une de ces planètes qui tournent autour de l'étoile nommée Sirius, il y avait un jeune homme de beaucoup d'esprit que j'ai eu l'honneur de connaître dans le dernier voyage qu'il fit sur notre petite fourmilière. Il s'appelait Micromégas, nom qui convient fort à tous les grands. Il avait 8 lieues de haut, j'entends par 8 lieues 24 000 pas géométriques de 5 pieds chacun. Quant à l'esprit de Micromégas, c'est un des plus cultivés que nous ayons. Il sait beaucoup de choses. Il en a inventé quelques-unes. Vers les 450 ans, au sortir de l'enfance, il disséqua beaucoup de petits insectes qui n'ont pas 100 pieds de diamètre et qui se dérobent aux microscopes ordinaires. Il en composa un livre fort curieux, mais qui lui fit quelques affaires. Le mufti de son pays, grand vétillard et fort ignorant, trouva dans son livre des propositions suspectes, malsonnantes, téméraires, hérétiques, sentant l'hérésie, et le poursuivit vivement. Il s'agissait de savoir si la forme substantielle des puces de Sirius était de même nature que celle des colimaçons. Micromégas se défendit avec esprit. Il mit les femmes de son côté. Le procès dura 220 ans. Enfin, le mufti fit condamner le livre par des jurisconsultes qui ne l'avaient pas lu. Et l'auteur eut l'ordre de ne paraître à la cour de 800 années. Il se mit donc à voyager de planète en planète pour achever de se former l'esprit et le cœur, comme on dit.
Une petite surprise m'avait échappé, ce n'était pas Nicolas Berger le lecteur, mais nous avons retrouvé une lecture sonore du conte datant de 1965 et c'était Roger Pelletier le narrateur, vous l'avez entendu, vous l'entendrez encore pour lire, entendre des extraits de Micromégas ce matin. Alors je vous interroge toutes les deux, Maria Susanna Seguin et Linda Gilles, à propos du comportement de ce géant qui sort de l'enfance, certes, au bout de plusieurs centaines d'années, c'est comme ça, sur sa planète, et qui dissèque des insectes et qui aime bien faire des choses qui ne plaisent guère aux religieux, aux mouftis local. Je me souviens que Maupertuis lui-même, dont j'ai donné le nom tout de suite dans l'introduction, disséquait des insectes et des petits animaux, et ça n'avait pas beaucoup plu ses premiers travaux quand il était dans sa vingtaine. C'est le modèle même de la curiosité scientifique, Linda Gilles.
Alors, le personnage que Voltaire met en scène ici dans ce conte est une figure, je dirais presque récurrente dans plusieurs contes, celle du jeune savant, jeune homme bien né, intelligent, curieux, ouvert aux sciences, qui pratique l'étude, l'expérimentation, l'observation, cherche à se former à l'aide de maîtres parfois, mais aussi, on le voit ici, peut-être hors des circuits académiques, puisque cette expérimentation autour des insectes, autour de l'observation, est relativement nouvelle, bien sûr, ce sont des savants dans leur cabinet qui franchissent ces frontières. Alors, le microscope a été inventé récemment, il est en voie de perfectionnement, hein, donc il y a plusieurs savants qui travaillent autour de cette question des formes du vivant.
Oui.
Maupertuis, mais aussi Réaumur, ce sont des grands noms de l'expérimentation, de la recherche, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la recherche savante autour des formes du vivant, des insectes. Alors, il y a un grand nombre d'allusions à l'actualité scientifique, bien sûr, dans ce texte. Cette question des insectes n'arrive pas par hasard. Voltaire a en tête une série de travaux très récents, très actuels, qui font débat, qui font polémique. Et il met en scène, sous cette forme satirique, un certain nombre de réalia scientifiques, dont Susanna parlera certainement.
Alors parlons-en avec Maria Susanna Seguin. Donc vous pensez, vous aussi, que d'avoir attribuer à ce géant une curiosité scientifique, de biologiste quasiment, c'est une référence à quelque chose qui dérange un peu les religieux. Il ne faut pas oublier que la curiosité, grande vertu du 18e et des Lumières, était condamnée comme un vice longtemps par les pères de l'Église. Est-ce qu'il y a tout cela dans ce personnage de Micromégas?
Bien sûr, il y a cela, il y a le fait que ce Micromégas est porteur d'un certain nombre de thèses philosophiques, et en particulier le fait que, principe hérité de Locke, hein, qu'il n'y a pas de connaissance qui ne passe d'abord par les sens, et que par conséquent tout savoir scientifique s'élabore à partir de deux piliers qui sont l'observation et l'expérience. Donc ce jeune Micromégas se forme au savoir par l'observation et l'expérience, la disséquer les insectes, hein, qui est la première étape de son apprentissage, et cela s'inscrit dans les pratiques de l'Académie des sciences, entre autres, hein, en France, à Paris en particulier, par la référence à tous ces savants dont Linda a parlé à l'instant, mais convoquant surtout une forme pratique d'acquisition du savoir qui se passe des savoirs transmis par une autorité quelconque, mais qui passe par l'expérimentation directe de la réalité.
hommage aussi, pensez-vous, à Émilie du Châtelet, disparue si vite, si soudainement, en 1749?
Certainement, Émilie du Châtelet ne s'intéressait peut-être pas aux insectes. Le conte en lui-même est baigné par l'influence d'Émilie du Châtelet, parce que c'est la mise en scène d'une thèse scientifique par le biais de la fiction. On vole de planète en planète dans un espace apaisé et serein. On observe les planètes. Et c'est cela qu'Émilie du Châtelet a montré à Voltaire.
C'est sa connaissance de Newton.
Exactement, sa connaissance de l'astronomie newtonienne essentiellement. Et c'est là que l'esprit d'Émilie plane dans le conte.
Linda Gille, il y a aussi cette phrase dans l'extrait que nous venons de lire, d'entendre. Micromégas se défendit avec esprit auprès de l'autorité religieuse. Il mit les femmes de son côté. Je vous écoute.
Et oui, c'est presque la seule allusion, presque l'une des rares allusions aux femmes dans ce conte. On peut le regretter. Ça n'est pas le cas dans d'autres contes.
Il parle souvent des femmes, et notamment les violences qu'elles subissent.
Et oui, dans Candide, hier, il en a été question qu'Cunégonde est un personnage clé de ce conte, et Voltaire est sensible à la condition des femmes depuis ses premiers contes de jeunesse, les contes en vers de jeunesse et même certains contes en prose datant des années 1714-1716, mettent en scène cette situation des femmes et les violences qu'elles peuvent subir en raison des tabous qui pèsent sur leur éducation, en raison de leur inexpérience. Mais il met en scène aussi de façon positive la volonté parfois de certaines femmes de s'approprier des savoirs qui leur sont pour lesquels on les tient à l'écart. Et c'est le cas d'un conte récemment découvert par un collègue, Nicolas Cronk, Le Rosaire, un très beau conte qui est peut-être le premier du corpus. Alors cette question des femmes, elle est quasiment absente ici de Micromégas. Il y a donc des allusions. Alors, ce schéma du voyage extraordinaire dans les planètes, ce schéma du voyage merveilleux, qui est presque un sorte de science-fiction avant la lettre. Voltaire s'est inspiré déjà de nombreux récits qui mettent en scène des voyages extraordinaires à travers l'espace.
Cyrano de Bergerac, alors qui est auteur, pas du tout le personnage de la pièce de Rostand.
Oui, l'une des sources bien identifiées de ce conte. Mais il y en a d'autres. Voltaire joue avec toute une tradition narrative, romanesque, qu'il connaît très bien. Et
anglaise aussi. Il y a
anglaise,
Swift
bien
derrière,
sûr,
les voyages de Gulliver. J'aimerais bien d'ailleurs que vous me disiez un peu un mot du rapport de Voltaire à Swift. Mais je vous laisse terminer.
Oui, et donc il utilise cette forme du voyage merveilleux, du voyage extraordinaire. Mais en réalité, il nous défamiliarise une première fois en nous emportant dans ce schéma narratif celui du voyage extraordinaire, mais ensuite il nous ramène à des réalités tout à fait terrestres et bien connues, les salons, la censure, les conversations, les livres, etc. Alors, Micromégas se défendit avec esprit, il mit les femmes de son côté. Bon, c'est une allusion, bien sûr, à la vie de la République des lettres et de la République des sciences. Les savoirs scientifiques circulent très rapidement dans le Paris et dans la France de cette période. C'est une allusion à l'actualité, à la réalité sociale, aux sociabilités de tout le XVIIIe siècle. Et effectivement, ces thématiques scientifiques, cette grande question de l'opposition entre les thèses de Descartes et celles de Newton, font l'objet de conversations passionnées dans ces lieux de sociabilité que sont les salons où circulent les savants et où circulent des intellectuels. Les femmes, peu de femmes écrivent et publient à cette époque, mais elles sont au centre, au cœur de ces lieux, de ces espaces culturels et scientifiques que sont les salons. Et Voltaire, par cette allusion, les présente comme les plus éclairées, puisque elle se rallie aux thèses, elle se rallie à la question, elle défend la liberté d'expression.
Maria Susanna Seguin, voulez-vous ajouter quelque chose à propos de ce public éclairé qui assiste au grand débat des scientifiques sur Descartes et
oui,
entre des cartésiens et Newton, et même si bon, il y a aussi des cartésiens qui finissent par se rallier à Newton. Enfin, c'est la complexité des débats scientifiques qui intéresse tout un public cultivé.
Oui, absolument. Et le conte est curieux. Voltaire aime bien la polémique, utilise la figure d'un savant qui est le voyageur qui accompagne Micromégas dans le conte, le nain, hein, le secrétaire de l'académie qui accompagne Micromégas, hein, et qui lui il rencontre sa maîtresse au milieu du voyage.
Oui.
Il a une scène d'amour un peu déchirant, sa maîtresse le quitte pour aller se consoler dans les bras d'un petit maître, et derrière cette figure se trouve un peu caricaturé le personnage de Fontenelle, qui est un contemporain de ce premier Voltaire.
Alors parlons-en, donc cet homme de Saturne que Micromégas rencontre dans son voyage. Bon, il n'est pas aussi grand que lui, mais il est quand même plus grand que les êtres humains.
Voilà, c'est ça.
Et, non, je parle de la grandeur physique.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Bon, il n'est pas bête. Est-il ridicule néanmoins ?
Il est quand même ridiculisé par Voltaire parce que il s'attache plus aux formes qu'au fond. Il va peut-être un peu trop vite dans des conclusions, et Voltaire règle ses comptes un peu injustement avec Fontenelle, qui avait été le secrétaire perpétuel de la première Académie des sciences renouvelée jusque dans les années 1740, qui avait eu le tort de défendre Descartes contre Newton, pour des raisons purement philosophiques et non pas pour une fermeture d'esprit, mais qui a été le grand initiateur des femmes aux connaissances. S'il y a quelqu'un qui a ouvert les femmes au savoir scientifique, c'est bien Fontenelle, avec ses fameux entretiens sur la pluralité des mondes, dans lesquels il met en scène une marquise curieuse, et à qui un philosophe enseigne, certes dans un langage galant, le système cartésien du monde, mais surtout élève la science au rang des centres d'intérêt de la société mondaine qui méprisait la science jusque la fin du XVIIe siècle. Et grâce à Fontenelle, ces femmes, ces salonnières, découvrent que la science est aussi belle et aussi intéressante qu'un livret d'opéra ou que des poèmes galants. Et donc c'est le grand mérite de Fontenelle que d'avoir ouvert un espace de sociabilité au savoir scientifique, dans lequel Voltaire arrive après, bien sûr. Donc cet hommage aux femmes passe aussi par un peu la mise en scène de cet homme qui compare les planètes aux bleues, aux brunes et aux blondes, au parterre des fleurs, etc. Fontenelle se moque de ce savoir un peu suranné dont Fontenelle est le représentant.
Il faut, dit-il, qu'il se forme l'esprit et le cœur, Micromégas, dans tous ses voyages de planète en planète. C'est quand même une expression, c'est peut-être forcé de ma part, mais enfin, ça évoque terriblement Pascal. L'esprit et le cœur. On dit souvent que, et il y a des raisons pour cela, que Pascal est un adversaire moqué par Voltaire pour son jansénisme, pour cette vision de la foi chrétienne qui repose sur une vision très humble de l'être humain, un espèce d'abaissement qui agace beaucoup Voltaire. Néanmoins, Pascal a été un très grand scientifique. Pascal a été très curieux, comme Micromégas, et donc a fait des choses qui n'avaient rien à voir avec ce que la religion de l'époque souhaitait. Il a transgressé beaucoup par ses recherches. Donc peut-être y a-t-il là une relation à Pascal. Pascal qui avait l'humilité véritable, mais pas pour autant une absence de curiosité scientifique.
Tout à fait. Voltaire a entretenu avec Pascal tout au long de sa carrière, tout au long de sa vie intellectuelle, un rapport extrêmement étroit. Il a écrit plusieurs textes en dialogue avec Pascal, des textes qui dialoguent avec la pensée de Pascal. Il lui rend hommage. Bien sûr, écartons la réserve majeure tout de suite, c'est celle de cette philosophie du péché, cette vision chrétienne du mal et du péché originel qui, selon Voltaire, empêche Pascal de porter jusqu'au bout sa réflexion scientifique. Mais il lui rend hommage, bien sûr, pour sa méditation scientifique, ses recherches scientifiques et sa méditation philosophique. Et notamment pour cette conscience d'un infini, cette mise au jour d'une théorie de l'infini.
Donc il y a quand même un hommage, vous êtes d'accord avec cela, Maria Susanna
Suga. Il y a en même temps un hommage, Micromégas, par son nom, comporte l'infiniment grand et l'infiniment petit,
oui.
Dans lequel Descartes plaçait l'homme. Mais contrairement à Descartes, contrairement à Pascal, pour qui l'infini avait quelque chose malgré tout d'effrayant et invitait l'homme à l'humilité, à trouver en Dieu la seule issue possible, l'univers de Micromégas, c'est parfaitement rassurant. On se déplace allègrement de planète en planète. On observe Mars, Saturne, les lunes tourner. On est complètement apaisé dans cet univers parce que l'homme est parfaitement à sa place dans cette nature. Une place toute relative, et c'est ce que le conte invite à contempler, la relativité de notre place.
Donc on n'a peut-être pas vraiment notre place, parce qu'il se moque un peu aussi, me semble-t-il, quand il va arriver à regarder ces petits humains sur la planète Terre, qui sont une toute petite chose dans l'univers, et qui croient que l'univers a été fait pour eux, qu'ils ont donc une place de choix. Voltaire balaye cette hypothèse avec
absolument.
Un grand rire.
Mais il balaye cette hypothèse-là, mais malgré tout, l'homme est une production de la nature comme les autres. Et il a sa place, il n'est pas le centre de la nature, il n'est pas le centre de l'univers, mais il n'a pas pour autant cette inquiétude, cette angoisse existentielle que Descartes met en scène dans ses pensées et qui invite à se tourner vers Dieu. J'insiste, que Pascal met en scène dans les pensées et qui l'invite à se tourner vers la divinité, vers le christianisme.
Alors j'ai encore une autre question, je l'ai annoncée parce que je trouve que Jonathan Swift est un génie absolu. Il a donc écrit Les Voyages de Gulliver. Voltaire était très admiratif de lui. C'est un ouvrage de 1726. Mais évidemment, la dette envers Swift est bien plus profonde encore. Swift est un ironiste extraordinaire. Je pense notamment à sa fameuse modeste proposition pour éviter que les enfants des pauvres ne soient une charge pour leurs parents ou leur pays et pour les rendre utiles au public en pleine famine. En 1729, Swift, dans cette modeste proposition, suggère que les parents n'ont qu'à manger leurs enfants. Il y a une ironie terrible sur le malheur des humains, qui est un grand thème voltairien. Laquelle de vous deux veut me raconter en quelques mots le rapport de Voltaire à Jonathan Swift? Et c'est peut-être la bonne émission pour le faire, puisque Micromégas, des planètes, des géants, c'est aussi l'univers de Swift, c'est Gulliver, quoi.
Oui, la dette, je cède la parole ensuite à Linda, la dette de Voltaire à Swift est évidente. Hein, ce personnage qui se déplace, cette rencontre avec des êtres de tailles différentes, de traditions différentes, est comme chez Swift, la possibilité, donne à Voltaire la possibilité de mettre en scène cette relativité de la nature humaine et l'absurdité de l'orgueil des hommes, qui confond confronté à l'autre, se révèle dans le ridicule de leur existence. Je trouve que la sagacité de Voltaire, le tour de force de Voltaire, c'est de l'avoir mise en scène dans une fable d'une efficacité, parce que le conte est très court malgré tout, est beaucoup plus court que d'autres contes, de le mettre en scène dans un récit narratif qui est tout autant un conte plaisant, avec un voyage extraordinaire, que la mise en scène d'une hypothèse scientifique, tout est relatif dans le monde. Chacun des chapitres met en scène l'expérimentation de cette relativité. Et le dernier chapitre arrive en conclusion qui démontre finalement l'absurdité de l'orgueil des hommes. C'est dans cette capacité à synthétiser la même idée, au fond, que Jonathan Swift, que Voltaire a ce tour de force.
Linda Gil.
Oui, merci. On peut rappeler effectivement que Voltaire est allé à la source. Il a séjourné en Angleterre. Et lorsqu'il arrive en Angleterre en 1726, au printemps 1726, il se plonge dans la culture, dans le théâtre, mais aussi dans la lecture, dans la découverte d'auteurs, de textes littéraires. Et Swift, Les Voyages de Gulliver, viennent de paraître en 1726. Et c'est dans sa correspondance avec certains de ses amis, et notamment avec l'un de ses plus proches amis de l'époque, Nicolas Thiriot, il fait part de cette découverte, de cette révélation, de cette lecture extraordinaire. Et bon, il sait que Thiriot a besoin d'argent. Il lui suggère de traduire immédiatement ce texte. Pour lui, c'est une œuvre extraordinaire. Donc effectivement, il a été sensible à la fois à la dimension satirique, à la dimension romanesque, à l'imagination, mais aussi à la dimension politique de ce texte. Et il insiste auprès de son correspondant pendant plusieurs mois pour l'engager à écrire ce texte. Il lui envoie des versions, des copies de l'édition anglaise. Et le Thiriot en question ne réagit pas. Et finalement, la première traduction connue paraît très rapidement. C'est celle de l'abbé des Fontaines. En tout cas... c'est celle qui est connue, la première traduction connue. Alors, Voltaire a été un admirateur immédiat de Swift et il a entretenu ensuite, en Angleterre même, il est entré en contact avec lui, il lui a écrit des lettres. Ils ont failli se rencontrer, une histoire d'accident a empêché le rendez-vous, un contretemps, mais il y a quelques lettres dans la correspondance de Voltaire échangées entre lui et cet auteur qu'il va ensuite exploiter, je dirais, c'est peut-être pas le mot, mais enfin, qu'il va réinvestir, qu'il va rester une référence dans son imaginaire personnel et littéraire. Alors, bien sûr, ce conte de Micromégas s'inspire d'un grand nombre de références. C'est le cas aussi dans Candide. On a parlé parfois d'encyclopédie du roman, tant il s'approprie et retravaille toute la tradition littéraire romanesque européenne. Mais bien sûr, ici, il s'agit de faire de ce récit un conte scientifique avec une conclusion philosophique.
Alors démontrer. Voilà. Je vous propose qu'on suive un peu les étapes du conte. Donc, à un moment donné, Micromégas et son nouvel ami saturnien, le premier venant de la planète Sirius, le deuxième de Saturne, se retrouvent sur le globe de la Terre. Alors, c'est vrai, on ne sait pas très bien où ils sont posés, mais en tout cas, ils ne voient rien au début. Puis, ils verront soudain, sur l'ongle de Micromégas, toute une expédition de petits êtres humains. Pour eux, ils sont minuscules, ils tiennent sur un ongle, qui veulent aller faire donc des découvertes scientifiques. Et puis, ils se mettent à parler avec ces tout, tout petits êtres qu'ils voient à peine. Voici un extrait du chapitre 7 de Micromégas. Vous entendez Micromégas, un humain et aussi le narrateur. Il y a une voix du narrateur dans le conte. C'est à nouveau la version sonore de 1965, le narrateur étant Roger Pelletier.
Ô atomes intelligents, tant qu'il être éternel s'est plu à manifester son adresse et sa puissance, vous devez sans doute goûter des joies bien pures sur votre globe, car ayant si peu de matière et paraissant tout esprit, vous devez passer votre vie à aimer et à penser.
Nous avons plus de matière qu'il ne nous en faut pour faire beaucoup de mal si le mal vient de la matière, et trop d'esprit si le mal vient de l'esprit. Savez-vous par exemple qu'à l'heure que je vous parle, il y a 100 000 fous de notre espèce couverts de chapeaux qui tuent 100 000 autres animaux couverts d'un turban, ou qui sont massacrés par eux, et que presque par toute la terre, c'est ainsi qu'on en use de temps immémorial.
Le Syrien frémit et demanda quel pouvait être le sujet de ces horribles querelles entre de si chétifs animaux.
Il s'agit de quelques tas de boue grands comme votre talon. Ce n'est pas qu'aucun de ces millions d'hommes qui font égorger prétend un fœtus sur ces tas de boue. Il ne s'agit que de savoir s'il appartiendra à un certain homme qu'on nomme sultan ou à un autre qu'on nomme, je ne sais pourquoi, César.
Ah, oh, malheureux! Peut-on concevoir cet excès de rage forcené? Il me prend envie de faire trois pas et d'écraser de trois coups de pied toute cette fourmilière d'assassins ridicules.
Ne vous en donnez pas la peine, ils travaillent assez à leur mine. D'ailleurs, ce n'est pas eux qu'il faut punir, ce sont ces barbares sédentaires qui, du fond de leur cabinet, ordonnent, dans le temps de leur digestion, le massacre d'un million d'hommes et qui ensuite en font remercier Dieu solennellement.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Vous aurez peut-être reconnu la voix de Claude Pieplus. C'est lui, en effet, dans cette lecture de 1965 qui incarne l'humain. Micromégas, quant à lui, est joué par Denis Julien. Ce matin, nous parlons en effet de Micromégas, un conte de Voltaire, plutôt de première partie de sa vie ou milieu de vie, contrairement par exemple à Candide et l'ingénu dont nous avons parlé hier. C'est un conte qui met en scène un géant qui découvre la planète Terre et qui s'étonne de beaucoup de choses concernant les humains. Alors, cet humain est quand même très intelligent dans cette scène du chapitre 7. Il est curieux scientifiquement. Il parle immédiatement du problème du mal qui hante l'espèce humaine et de ces massacres pour des raisons religieuses qui caractérisent les humains incessamment dans un temps immémorial, dit-il. C'est le principal problème des humains et derrière eux, il y a des barbares sédentaires qui sont peut-être encore plus barbares que les autres puisqu'ils ordonnent ces massacres au nom de dogmes religieux tout en étant très protégés eux-mêmes des faits et gestes dangereux qui se produisent au nom des religions. Qu'est-ce que vous auriez à ajouter sur ce texte? Est-ce que Voltaire plante l'essentiel de Micromégas ou bien n'est-ce qu'une veine de ce conte qui est constitué par sept chapitres? C'est un enjeu ou c'est le cœur?
La question de l'origine du mal hante Voltaire tout le temps et elle apparaît comme l'un des corollaires dans ce conte. C'est justement parce que Voltaire cherche à montrer la relativité de l'homme dans l'univers et la prétention qu'il a d'en être le centre que cette question du mal affleure dans le texte. Parce que c'est peut-être l'une des pires conséquences. C'est le fait que les humains sont convaincus dans les différentes parties de la Terre d'être détenteurs d'une vérité ultime qu'ils ont le droit d'imposer aux autres. Et c'est peut-être l'une des causes du mal. Et on voit dans ce petit passage l'une des thématiques qu'on retrouve dans Candide, qu'on retrouve dans l'ingénu, comment finalement cette collusion du politique et du religieux, le thème de l'imposture philosophique des religions finalement apparaît déjà dans le conte de Micromégas et dans la première partie de la vie de Voltaire comme l'un des points centraux de la réflexion. Dénoncer la vanité des hommes, c'est nécessairement en venir à dénoncer l'inutilité et même la dangerosité de ces religions qui poussent les hommes pour de simples intérêts de quelques-uns à s'entretuer, finalement, et à entretenir ce cercle pernicieux de la guerre. C'est des passages d'une actualité qui donne la chair de poule.
Donc il y aurait un enjeu, un hymne à la science, quand même, puisque cette expédition, elle a vraiment eu lieu en Laponie, oui. Maupertuis a accompagné l'expédition. Tout ça s'est mis en scène dans Micromégas, c'est ça que font les petits humains que Micromégas, le géant, a sur son ongle. Et en même temps, la religion est attaquée pour détester la curiosité scientifique, mais l'angle de prédilection, c'est quand même la cruauté. Mmh. Et ça, c'est vrai que ça court dans toute l'œuvre de Voltaire. Il n'est pas encore entré en scène, Voltaire, pour défendre, dans l'affaire Calas, entre 1761 et 65, ça sera plus tard. où la cruauté est terrible, hein, puisqu'on accuse un père d'avoir été responsable de la mort de son fils, qui aurait voulu ce fils se convertir au catholicisme. Or, le père était protestant, et le père va être torturé, étranglé, puis brûlé en 1762. Dans le cas du chevalier de la Barre, un peu plus tard, celui-ci, en 1766, est accusé d'avoir mutilé des crucifixes avec d'autres jeunes gens insolents. En plus, il a chez lui des œuvres de Voltaire, et il sera la dernière personne exécutée pour blasphème en France, décapité, puis son corps brûlé. La violence est la ligne même de la critique de la religion pour Voltaire. La violence de la religion. Linda Gill.
Oui, alors, bien sûr, l'opposition religieuse affleure ici de façon caricaturale, mais il me semble que dans ce passage, en tout cas, et dans bien d'autres, même si la question religieuse est au centre de la réflexion de Voltaire, il me semble que c'est la responsabilité politique de gouvernants et la question de l'impérialisme de certaines puissances qui cherchent à conquérir d'autres territoires, qui cherchent à agrandir leur empire, cette soif de pouvoir et cette soif de conquête,
de prédation
qui est caractéristique de toute l'histoire des civilisations sur lesquelles Voltaire va travailler en historien, commence déjà au début des années 1750. Il est en pleine rédaction de L'essai sur les mœurs et du siècle de Louis XIV. Ce sont ses premiers grands textes d'historien. Il y a déjà eu l'histoire de Charles XII, l'histoire du monarque suédois un peu plus tôt. Mais donc l'histoire humaine, l'histoire politique est au centre de sa réflexion. Elle s'associe ici à la réflexion sur l'anthropocentrisme, ces deux questions sont liées. Cette tentation des gouvernants de s'approprier des références religieuses, une autorité religieuse pour justifier de conquêtes et de massacres, eh bien, elle est liée à la question de l'anthropocentrisme. À partir du moment où chacun considère que sur son territoire, il a sa référence, son autorité divine qui l'autorise à gouverner et à opprimer des peuples, eh bien, pour Voltaire, la question philosophique et la question politique sont liées. Et il me semble qu'ici, c'est davantage la question de la responsabilité politique des chefs d'État conquérants qui est mise en avant. La question religieuse, elle affleure sous la forme d'un détail ici, les chapeaux et les turbans. Il s'agit probablement, d'après les spécialistes, d'une référence à une guerre qui a opposé en 1738-39 la Russie à l'Empire ottoman, avec l'Autriche en troisième larron allié de la Russie. L'une de ces guerres qui traverse le XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle est un siècle de guerre permanente. Et la question des successions, la question des empires, des grands empires, est au cœur de la réflexion de Voltaire. Et c'est une question économique, une question de pouvoir de famille régnante. Hein, il ramène tout ça à la responsabilité des individus. C'est ce qu'il met en avant dans ses textes historiques les plus importants.
Alors, ce qui est intéressant aussi, bon, même si évidemment, Maria Susanna Seguin, vous pourrez réagir à ce point majeur de Voltaire, la cruauté, la violence liée au conflit entre les foi religieuses. Une autre chose que je trouve très intéressante dans Micromégas, c'est que cette expédition d'humains, pour des raisons scientifiques, en Laponie, pour aller vérifier les théories de Newton, etc., elle rassemble sur le même bateau, donc tout ça c'est sur l'ongle de ce grand géant Micromégas, des êtres tout à fait différents sur le plan des convictions et des fois. Il y a aussi bien un partisan des théories de Thomas d'Aquin, il y a un malbranchiste, il y a un leibnizien, il y a un lockien. Autrement dit, les religions et les fois et les convictions et les chapelles philosophiques peuvent s'accorder si la curiosité scientifique est première. Est-ce que c'est ça qu'il nous dit ? Que laisser tomber les querelles dogmatiques, au fond, dans la science, c'est elle qui prévaut. Et ils sont sur le même bateau, littéralement.
On est tous sur le même bateau, sauf Micromégas et son ami. Je pense que la dénonciation du fanatisme, hein, Voltaire, c'est la cruauté dont vous parlez, est profondément liée à la question du fanatisme. C'est-à-dire les croyances qui aveuglent l'esprit, finalement. Et sur ce bateau sont réunis des représentants de toutes les contradictions humaines. En même temps, des hommes capables de faire des découvertes incroyables qui étonnent Micromégas, d'avoir avec de tout petits outils mesuré les méridiens de la Terre et avoir démontré que Newton avait raison, et en même temps capable d'obstination absolue qui rend toute conversation impossible, parce qu'en réalité chacun défend son point de vue qui est inconciliable avec celui de son voisin. Et donc c'est une illustration que peut-être même dans la philosophie, il peut y avoir des fanatismes qui rendent le dialogue très difficile, parce que le leibnizien et le malebranchiste n'arriveront pas à s'entendre, parce que
vont triompher.
Absolument, parce que pour Voltaire, et je pense que pour vous avoir écouté hier, la question a été évoquée, il s'agit aussi de dénoncer l'esprit de système. Et l'esprit de système peut être celui de la religion, qui explique tout par un principe surnaturel, que le principe philosophique qui résume tout à une seule hypothèse scientifique. Dans cette cacophonie des humains qui parlent sans s'entendre, le seul qui tire son épingle du jeu, c'est le Lockien, hein, et un peu sceptique, mais convaincu.
Qui croit dans l'expérience.
Qui croit dans la science.
Et les faits sensibles.
Exactement.
Alors, il y a cette question, évidemment, du risque que la métaphysique et la théologie l'emportent sur l'enquête scientifique.
Absolument.
C'est exactement ce que vous venez de dire. Eh bien, justement, Micromégas, à la fin du conte, va laisser un ouvrage aux humains qui pourrait, pense-t-il, comporter les secrets métaphysiques les plus troublants, les plus importants, cadeau magnifique. Écoutez cet extrait du chapitre 7 de Micromégas, à la fin.
Il y avait là, par malheur, un petit animalcule en bonnet carré qui coupa la parole à tous les animalcules philosophes. Il dit qu'il savait tout le secret, que cela se trouvait dans la somme de saint Thomas. Il regarda de haut en bas les deux habitants célestes. Il leur soutint que leur personne, leur monde, leur soleil, leurs étoiles, tout était fait uniquement pour l'homme. À ce discours, nos deux voyageurs se laissèrent aller l'un sur l'autre en étouffant de ce rire inextinguible qui, selon Homère, est le partage des dieux. Leurs épaules et leurs ventres allaient et venaient, et dans ces convulsions, le vaisseau que le Syrien avait sur son ongle tomba dans une poche de la culotte du Saturnien. Ces deux bonnes gens le cherchèrent longtemps. Enfin, ils retrouvèrent l'équipage et le rajustèrent fort proprement. Le Syrien reprit les petites mites. Il leur parla encore avec beaucoup de bonté, quoiqu'il fût un peu fâché dans le fond du cœur de voir que les infiniment petits eussent un orgueil infiniment grand. Il leur promit de leur faire un beau livre de philosophie, écrit fort menu pour leur usage, et que dans ce livre, ils verraient le bout des choses. Effectivement, il leur donna ce volume avant son départ, on le porta à Paris, à l'Académie des sciences, mais quand le secrétaire l'eut ouvert, ils ne virent rien qu'un livre tout blanc. « Ah, dit-il, je m'en étais douté. »
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Épisode, là, dans le conte Micromégas que nous étudions ce matin avec deux spécialistes de Voltaire, épisode peut-être plus complexe qu'il n'en a l'air. Donc je reviendrai après sur le fait que le secrétaire, alors c'est quoi, une espèce de secrétaire de l'Académie des sciences, qui reçoit ce grand livre avec plein de secrets, croit tout le monde, de Micromégas, ce secrétaire dit qu'il s'était douté que le livre était vide. Ça, je trouve que c'est un peu complexe. Mais commençons par la scène elle-même. Nous sommes, nous les humains, de toutes petites mythes nous avons beaucoup agacé Syrien, le Syrien Micromégas et Saturnien, son ami, qui s'en vont, qui n'en peuvent plus, de notre orgueil infiniment grand. Il y a une fâcherie à la fin, il y a quoi, il nous abandonne, le grand géant qui en sait 10 fois plus que nous, Linda Gilles.
Oui, conclure un voyage extraordinaire dans l'espace céleste n'est pas chose facile. Souvent, les auteurs qui ont expérimenté ce genre trouvent des chutes un peu anecdotiques. Voltaire ici prépare son lecteur par toute une série, tout un dispositif ironique. Le rire est peut-être la première conclusion du conte, hein. Face à ces prétentions ridicules des humains à vouloir expliquer le monde par un système unique, une pensée unique.
Où ils sont au centre. Hein. Là, ce sont les thomistes qui en prennent plein la figure. Ce sont ceux, dans le texte de Voltaire, qui considèrent le plus que les humains sont au centre du monde.
Oui, donc Voltaire produit cette fable pour ridiculiser toutes les formes de dogmatisme, mais en même temps c'est un conte sur la tolérance, hein. Il me semble qu'il y a une visée positive, il y a un ethos positif dans ce texte. La chute, certes, est déceptive, ce grand livre qui aurait pu tout expliquer et qui permet de tenir à distance ces humains prétentieux, qui permet de s'en déprendre.
Ce livre de Micromégas.
De l'équité. Alors c'est un motif qui revient dans plusieurs textes de Voltaire qu'il va exploiter ensuite dans Zadig.
Quoi, le livre vide ?
Oui, le livre indéchiffrable. Le livre unique, c'est aussi une métaphore, une caricature de la Bible. Vouloir tout contenir, contenir le monde et
son explication, ça n'existe pas. Pour Voltaire.
Voltaire est un philosophe ignorant. Il revendique cette posture de philosophe ignorant. C'est le titre d'un texte qu'il publiera un peu plus tard, en 1766, anonymement. Un philosophe ignorant, et c'est pour cela que les philosophes ou la tradition philosophique académique lui dénient ce titre de philosophe, parce qu'il n'a pas de système, parce qu'il refuse le livre unique, la pensée unique, l'explication unique du monde, au stade où en est la connaissance scientifique au XVIIIe siècle, en 1750, 51, 52. Il y a encore beaucoup d'inconnus. Le peu de connaissances scientifiques auxquelles les humains sont parvenus est déjà extraordinaire. Voltaire n'a de cesse de rappeler à quel point la chaîne, l'histoire, hein, de la progression, l'histoire des progrès de l'esprit humain par l'histoire des découvertes scientifiques. Mais évidemment, la chute de ce texte est une façon de renvoyer dos à dos tous les dogmatismes.
Quiconque parle au nom soit de la théologie, soit de la métaphysique, d'ailleurs.
Oui,
pour Voltaire, les deux marchent ensemble.
À distinguer la physique de la métaphysique et la science du...
Alors, c'est à vous que va revenir Maria Susanna Seguin, vous avez un peu de temps, pour finir cette émission, de nous expliquer l'énigme tout de même de cette fin de Micromégas. Le livre est donné aux humains avec une certaine promesse que c'est le livre philosophique absolu. Le secrétaire de l'Académie des sciences l'ouvre. Il est blanc, il est vide ce livre. C'est une leçon. Apprenez vos limites, vous ne saurez jamais les secrets les plus ultimes de l'univers. Mais, le secrétaire de l'Académie des sciences dit qu'il s'en était douté. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, en effet, c'est une leçon d'humilité, une leçon d'une forme de scepticisme académique prudent, la fin ultime ne nous est pas racontée, elle nous est peut-être inaccessible. Mmh. Il faut se souvenir que toute la discussion qui a lieu avec les représentants des écoles philosophiques, et en dernier le Sorbonnard, hein, parce que le Bonnet Carré, c'est bien le docteur de Sorbonne, mmh, le théologien, à qui revient le dernier mot dans ce débat, porte sur l'âme humaine. Qu'est-ce que l'âme humaine et qu'advient-il de l'âme humaine,
oui,
qui est une question aussi qui interroge beaucoup Voltaire à l'époque où il écrit Micromégas. Et donc, on n'en sait rien parce qu'il y a des choses qui dépassent l'entendement et Voltaire ne cesse d'interroger cette question et de s'arrêter avant de tomber justement dans l'esprit de système qui pourrait nous induire en erreur. Enfin, cette fin un peu ouverte de la lecture par le secrétaire de l'Académie des sciences me fait réfléchir à deux ou trois petites choses. D'abord, l'Académie des sciences est le centre du savoir. Hein, c'est à l'Académie des sciences à qui il revient jusqu'au milieu du XVIIIe siècle de décider ce qu'est le savoir scientifique, ce qu'est science ou ce qui ne l'est pas. Donc, soumettre ce livre au secrétaire de l'Académie des sciences, c'est lui demander de définir ce qu'est la science.
Mais est-ce que ça veut dire, excusez-moi, je m'en étais doutée, signifie-t-il, oui, que le plus savant de tous, lui, connaît les limites du savoir? C'est une lecture possible, il y en a une autre.
C'est une lecture possible, bien sûr. Et justement, c'est la particularité de ce texte qui est publié en 1751, le livre 1752, mais c'est sans doute un petit peu plus tôt, mais qui est écrit beaucoup plus tôt, parce que ce personnage de Maupertuis avec qui on dialogue dans le conte, c'était un ennemi de Voltaire. Hein, donc il l'écrit avant qu'il ne soit son ennemi. Et en moment, si on prend en compte le fait qu'il a été écrit beaucoup plus tôt, le secrétaire de cette Académie des sciences, c'était bien Fontenelle.
Oui.
Et toute la leçon de Fontenelle, c'est on n'en sait rien.
Moi, je suis désolée de devoir accélérer.
Bien sûr.
Pas à cause du timing.
Bien sûr.
Il y a quand même une autre lecture possible, qui est de dire que s'il affirme « Ah, je m'en étais douté », c'est encore de l'orgueil et c'est encore de la vanité.
Bien sûr.
Oh, ce grand géant qui prétendait tout savoir, il ne sait rien et c'est nous qui saurons un jour.
Bien sûr. C'est aussi dénoncer par une ultime boutade, la vanité des hommes, par un ultime trait de satire, la vanité des hommes. Donc deux possibilités selon le contexte de composition.
There's a star.
Il y a un homme dans les étoiles qui attend dans le ciel. Il aimerait venir et nous rencontrer. C'est cela que chante David Bowie dans cette fameuse chanson Starman de 1972. Merci beaucoup Linda Gill, Maria Susanna Seguin. Vous avez beaucoup bien éclairé pour nous ce conte Micromégas de Voltaire. Les références de vos travaux sont précisées sur notre site. Voici maintenant la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse à la notion de dignité humaine. C'est le pourquoi du comment.
Comment respecter toute la dignité des humains ? Il y a aujourd'hui des conflits parfois très violents sur la notion de dignité humaine. On oppose les conditions de vie minimales, la vie aussi, comme source de la dignité. Pour être respecté, il faut bien aussi être respecté dans sa vie, ne pas être tué. Et on oppose cela, bien sûr, aussi à la dignité comme capacité autonome à choisir son propre destin, comme ne pas se voir imposer des décisions malgré soi. Et il y a parfois des conflits entre ces conceptions de la dignité. Par exemple, un patient, aujourd'hui, des associations de patients ou de citoyens réclament souvent, même s'ils se sentent bien traités par les soignants, ils réclament bien souvent aussi d'être respectés dans leur dignité, au sens de leur autonomie rationnelle, au sens de leur capacité aussi d'hommes et de citoyens, ou de femmes bien sûr, à décider de leur destin, et cela jusqu'en fin de vie. Ainsi, il y a une conception parfois considérée comme minimale de la dignité, on vous traite avec des égards, mais on ne respecte pas votre décision, et on en vient à opposer justement cette dignité rationnelle aux conceptions de la dignité matérielle, de la dignité considérée comme minimale. Et cette opposition peut donner lieu à des conflits. En fin de compte, au bout du compte, même si on vous traite dignement, ne faut-il pas aussi respecter votre décision ? Et respecter la dignité des humains revient alors à respecter leur autonomie jusqu'au bout. Bien sûr, cette conception et cette tension peut arriver, elle est au cœur des débats d'éthique en fin de vie. Mais il faut se rappeler que la dignité humaine est une et indivisible. Les bourreaux le savent bien. Dans les situations d'humiliation extrême, on cherche à la fois à affamer, à réduire à des conditions misérables, que Primo Levi, par exemple, a décrites dans « Si c'est un homme », que Robert Antelme a décrit aussi dans « L'espèce humaine ». Il faut humilier, affamer, mais il faut aussi, bien sûr, priver de liberté, d'autonomie et de rationalité. Les bourreaux savent bien que l'humiliation humaine, pour être complète, doit aller de l'asservissement de la volonté jusqu'à la torture du corps et la capacité psychique aussi à se représenter comme un sujet. Ainsi, les bourreaux savent bien que la dignité humaine doit être envisagée comme un tout, parce qu'ils veulent la briser dans chacun de ses aspects. Ils savent bien qu'on doit, pour écraser un humain, à la fois le faire avec sa vie, son corps, susceptible d'être écrasé, tué à tout moment, et aussi avec sa liberté, bien sûr, qu'il n'est plus capable d'exercer, ne plus lui reconnaître ce que Kant décrivait avec tant de force, la rationalité, la personnalité, la subjectivité, le droit d'être traité comme une fin et non pas comme un moyen, comme quelque chose d'absolu et non pas de relatif. Cela doit nous orienter, car les combats pour la dignité humaine doivent consister à respecter toute la dignité des humains. Dans un monde juste, on doit respecter toutes les dignités minimales, soigner les corps de façon minimale et cela jusqu'au bout, et les sujets, les psychologies, la subjectivité, mais aussi respecter la volonté. Les conflits sur la dignité des humains sont parfois des conflits dans les démocraties quand les conceptions se confrontent pour faire prévaloir l'une sur l'autre et peut-être, in fine, la liberté de choisir doit-elle l'emporter sur les conditions de vie quand il y a une souffrance pire que la mort, mais il faut se rappeler que le but d'une vie digne, c'est de concilier tous les aspects de la dignité des humains, tous les aspects minimaux, depuis la survie de nos corps jusqu'au respect de nos libertés.
Merci Frédéric Worms. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger et Colin Gruel avec à la technique Grégory Wallon. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin. Et merci à toute l'équipe en général d'Avec Philosophie, Nassim El Kabli, Corinne Amar, Victoire Mellet, Armance Bourquin. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité.